Alors si je le dis comme ceci, d'une manière à la fois neutre, donc ni séductrice ni castratrice, on peut dire qu'on revient à l'idée première qui serait qu'on n'a pas besoin d'interpréter du tout, mais c'est-à-dire qu'on revient à l'idée que l'analysant peut, de ce fait, être confronté à sa propre ambivalence et rechercher à partir de là d'où provient cette propre ambivalence qui n'est pas motivée par l'attitude de l'analyste, mais qui a été mise en fonction par la demande de règles fondamentales d'associer avec la possibilité que l'association mène à tout, c'est-à-dire mène au mieux comme au pire, et que cette association a ce caractère unitaire. Ceci me mène maintenant aux deux propositions de fin d'analyse que nous connaissons, plus élaborées que celles que je vous ai présentées, la proposition freudienne qui a affaire au père castrateur, la proposition, je dirais, kleinienne qui a affaire à la mère phallique. La proposition affaire à la castration, qui a affaire à la castration, est en quelques mots celle-ci. Sous l'effet de l'angoisse de castration, l'individu va renoncer à ses activités prégénitales ou ses activités de type phallique. Son complexe d'Édipe va arriver soit au déclin, soit à la destruction. Destruction du complexe d'Édipe qui n'implique pas la destruction de l'énergie, l'énergie est toujours là. Et va faire que l'énergie qui n'est plus employée par le complexe d'Édipe, qui ne s'épuise plus dans cette recherche de satisfaction édipienne, va pouvoir être déplacée sur des activités de type civilisatrice ou de type sublimatoire ou de type créatrice, et que par contre l'énergie adulte, hétérosexuelle, génitale, elle va pouvoir être employée dans la visée reproductrice, faire des enfants. Faire des enfants, ceci avec l'accord des parents de la scène primitive. Il y aurait quelque chose comme vous pouvez employer votre activité sexuelle uniquement avec votre femme dans le but de faire des enfants. Un point, c'est tout. Les activités prégénitales, on s'en débarrasse. Alors, ça a deux inconvénients majeurs. La première, c'est que on ne peut jamais se débarrasser de ses activités prégénitales. Et deuxième, c'est qu'elle est liée à l'idée de l'angoisse de castration, donc quelque part à l'idée du père. Il s'agit du fils et du père. Bien entendu, on ne peut pas se débarrasser, le complexe d'Édipe ne peut jamais sauter. La preuve est, c'est que nous tous, qui sommes analystes, quel que soit notre développement analytique, nous sommes toujours à la merci de faire un rêve parfaitement édipien la nuit prochaine, du fait que notre inconscient est bien sûr toujours là, toujours en fonction, et que nous avons notre énergie à disposition. Donc cette énergie ne peut pas être canalisée uniquement dans la direction souhaitée. L'autre direction, à moins que ce soit un idéal de ce qui se passe après la psychanalyse. Après la psychanalyse, la personne est mariée, fait des enfants et travaille. Voilà, là, ça devient une sorte d'idéal. L'autre direction, c'est la direction kleinienne à propos de la mère phallique. La mère phallique, c'est la mère que l'enfant essaye de détruire. Il faut que je précise qu'il y a deux sortes de mère phallique. La mère phallique, c'est celle qui peut à la fois contenir dans son vagin, disons la mère qui contient dans son vagin le pénis du père, lequel pénis n'est pas mort et vivant. C'est plutôt le père qui a été coupé du pénis, qui a été châtré, qui est parti, mais le pénis lui reste et la mère le conserve. Il y a donc là une mère qui n'est pas une mère unique, monomère. Il y a deux personnages dans la mère phallique ainsi conçue. Et l'autre personnage de la mère phallique, qui serait plus pathologique sur les kleiniens, c'est celui où ce pénis aurait été carrément incorporé et disparu. Elle serait devenue la mère elle-même. Alors ça, c'était la mère phallique terrifiante qui ne fait qu'un bloc. Alors l'enfant devant la mère phallique, comme vous le savez, on va pouvoir lui montrer ses fantasmes de destruction épouvantables. Il s'en prend à la mère, au sein, à ses organes génitaux, par la même aussi au pénis du père, ou à la mère phallique dans son ensemble. Et le psychanalyste qui représente la bonne mère va pouvoir peu à peu faire comprendre à l'enfant que ce système-là ne le détruit pas. Donc l'enfant sera reconnaissant plein de gratitude pour cette mère qui résiste à ces attaques, et l'enfant pourra voir que son instinct de mort est vain et qu'il a meilleur temps de prendre en compte l'autre instinct, l'instinct de vie, et donc cesser ses attaques et donc s'améliorer ainsi. Le problème, c'est qu'à la fin de l'analyse, il s'agit d'interrompre le processus. Alors en interrompant le processus, que l'enfant soit bon ou mauvais, l'enfant se sépare et donc, en quelque sorte, tue cette mère phallique dont il va être obligé de faire le deuil. Et on se trouve devant la situation que la personne va se trouver dans un travail de deuil par rapport à la séparation. Avec ces deux possibilités, soit c'est après la psychanalyse, une fois la psychanalyse finie, il y a une séparation véritable, travail de deuil, position dépressive, et la position dépressive est terminale, puisque la psychanalyse est finie, et on est dans une position dépressive, dans un travail de deuil, jusqu'à la mort. L'autre situation, c'est que le travail de deuil se passe avant, c'est-à-dire quand on prévoit la fin de l'analyse, et que ce soit une sorte de travail qui soit, non pas comme l'est le vrai travail de deuil, qui est un détachement inconscient, qui est un travail inconscient qui se passe à l'insu de la personne en deuil, c'est son appareil psychique qui fait le travail, son appareil psychique énergétique, mais que ce soit un travail pris dans le réseau préconscient-conscient et que la personne fasse son travail de deuil tout en étant en psychanalyse. Mais là, il y a une sorte de paradoxe, c'est que ce n'est pas quand le psychanalyste décide on va arrêter la psychanalyse, ça n'est qu'une chose dite, c'est quand le patient se trouve devant un arrêt. Alors on a parlé des vacances, on a parlé des perspectives d'arrêt, mais en fait l'arrêt il est là dès le début, dès la première séance il y a arrêt. Autrement dit, on se trouvait dans une situation où, du moment qu'on commence une psychanalyse crânienne, à la première séance, on est déjà en position dépressive et en travail de deuil. On retrouve là une théorie qui s'applique tant à l'analyse qu'à l'analysant. Analyste et analysant seraient toujours dans un travail de deuil par rapport à cette mère phallique, avec quel que soit l'aspect qu'on lui donne, et par rapport à la séparation de l'analyste bonne mère. La seule solution qu'on aurait pour quitter ce travail de deuil serait à ce moment-là de devenir analyste kleinien soi-même. Ces deux fins ne satisfont ni l'une ni l'autre, quoiqu'elles sont très satisfaisantes l'une et l'autre, parce que la première donc fait allusion à la castration, la seconde fait allusion à la séduction, et que chacune peut être récupérée, comme on l'a su, Melanie Klein, on peut très bien la voir comme une sorte de retour vengeur de la femme par rapport au machisme de l'homme de Freud. Et ceci me mène à une autre solution, qui est celle que je voudrais essayer de développer et de prôner, qui serait une solution qui concernerait beaucoup plus la question de ce pouvoir immatériel unitaire du dire. J'aimerais qu'à travers le dire, on puisse trouver quelque chose qui soit ni de l'ordre de la castration paternelle, ni de l'ordre de la séduction maternelle, mais qui soit alors de l'ordre de la scène primitive, mais dans un sens différent, c'est-à-dire fondamentalement quelque chose qui fasse que le sujet ne soit plus dans ces scènes primitives, ces fantasmes primitifs, toujours l'enfant, l'enfant victime de la scène primitive, l'enfant victime de la séduction, l'enfant victime de la castration, ou l'enfant tout-puissant qui maîtrise la séduction, qui maîtrise la castration, qui maîtrise la scène primitive, mais qui soit quelque chose où la fin puisse mettre analyste et analysant sur un plan d'égalité, où il n'y aurait plus ce déséquilibre que signifie la scène primitive, que signifient les trois fantasmes primitifs. Et à travers ceci, j'ai proposé une idée qui serait celle que j'ai appelée la jouissance du dit, qui serait celle où le discours psychanalytique, donc ce discours qui est entre psychanalyste et psychanalysant, soit lui chargé de cette énergie dans le sens du fonctionnement du plaisir, de cette énergie primitive de l'appareil psychique, et que à ce moment-là, le dit soit en quelque sorte symbolique, représentatif de l'enfant des trois fantasmes. Et alors, que deviendraient les analystes et analysants à ce moment-là? Ils deviendraient les parents des trois fantasmes. Et ainsi, on pourrait imaginer que si, à un moment donné, ce qui est dit amène une certaine jouissance qui est partagée, mais sous certaines conditions, entre analyste et analysant, on se retrouvait dans la situation où l'analyste et l'analysant seraient ce qui est au début, c'est-à-dire seraient les deux parents de la scène primitive, lesquels ne feraient pas que forniquer pour faire un enfant qui devient finalement la victime, mais en parlant, ferait un discours symbolique de cet enfant. Et ce discours symbolique de cet enfant et de l'orgasme qui réunit ou de la fornication qui réunit les parents, c'est ce discours-là que j'aurais appelé celui de la jouissance du dit. Si on arrive à un moment où analyste et analysant puissent faire un échange qui est de type jouissance du dit, de type satisfaisant, à ce moment-là s'évanouit dans le moment la nécessité d'interprétation de transfert, de ramener le discours à autre chose, mais surgit le plaisir du fonctionnement psychanalytique transmis dans le discours symbolique. Et il ne s'agit plus d'un enfant psychanalysant et d'un parent psychanalyste, il s'agit de deux personnes sur pied d'égalité qui ont ainsi vécu un moment de bien-être et d'espoir qui peut permettre la fin de la psychanalyse. C'est ainsi que l'analysant et l'analyste peuvent se quitter avec l'idée qu'on retrouve donc universelle de toute théorie du désir, désir que les choses se mettent en mouvement et qu'on soit maître de la situation et pas esclave de la situation, ce qu'on a vécu comme un désir satisfaisant, accompagné de bien-être et d'espoir. Ce qui est un peu différent du désir lacanien, ce désir lacanien ne précisant pas ces points-là, est un désir qui est continuellement frustré, qui ne peut pas être satisfait, qu'il s'agit toujours de reprendre. Mais si on y ajoute la qualité qu'on a trouvée de bien-être et d'espoir, alors ce désir perd cette valeur impossible de satisfaire qu'il conserve, mais il la perd aux dépens d'une autre valeur qui est la valeur de l'espoir du bien-être, autrement dit que ça vaut la peine et non pas que c'est peine perdue. Et c'est aussi un des grands moments qu'on trouve dans la psychanalyse, c'est que lorsqu'on éprouve cette jouissance du dit symbolique, donc de cette naissance de ces deux parents, qu'on l'éprouve l'un et l'autre, à ce moment-là, on se dit, eh bien vraiment, tous nos efforts ont valu la peine. Ça vaut la peine, et on peut chacun se quitter, chacun pour soi, avec cette idée que désirer vaut la peine. Donc que l'existence vaut la peine. Alors, ça me paraît tout à fait différent des deux autres options, qui est vivre toujours sous l'angoisse de castration, avec cette obligation d'avoir une famille, d'avoir des enfants et de créer, ou vivre toujours sous l'angoisse de la mère phallique, avec cette obligation de rester dans une situation, dans une position dépressive, avec une continuelle nécessité d'exprimer sa gratitude et sa reconstruction, les deux ayant comme finalité la mort. Ces deux théories, freudienne et kleinienne, ont probablement l'inconvénient de trop ressembler à une théorie qui serait superposable à la théorie de l'existence qui finit par la mort. Et quand Freud disait par exemple, bien, la névrose à la souffrance de la névrose, je peux vous offrir la misère de la vie quotidienne, la misère de la vie quotidienne qui va durer jusqu'à la mort. Donc cette idée qu'on ne peut pas offrir plus, moi, me paraît insatisfaisante pour mon travail, et je crois que l'idée qu'on puisse finir avec une mise en mouvement, comme on a dit au début, une mise en fonction de l'appareil psychique, dans le sens d'un désir, avec, sous-tendu par l'idée d'un bien-être et d'un espoir, et non pas sous-tendu par l'idée d'une impossibilité existentielle, du fait que nous sommes tous, comme nous le savons bien avant de commencer l'analyse, condamnés à mourir un jour ou l'autre.